Le journal Anthony Montondon.
Bonjour, oui à un destin commun reconvié Saulx et Loveresse. Les citoyens des trois communes ont accepté hier de poursuivre les discussions en vue d'une éventuelle fusion. Le président du groupe de travail intercommunal est en direct avec nous pour parler des prochaines étapes. Être imposé indépendamment de son état civil, ça pourrait devenir la norme en Suisse. Le Conseil national se penche en tout cas sur ce projet, un projet qui séduit à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Nouvelle saison et nouvelle ère pour le HC Bienne. Le club zélandais de hockey sur glace démarre ce soir le championnat de National League face aux champions en titre. Un premier test grandeur nature pour une équipe passablement remaniée cet été. La pluie devrait prochainement faire partie du passé. Météo News prévoit un retour à un temps sec pour cet après-midi. Quelques éclaircies pourraient même apparaître. Température maximale 17 degrés. Reconvier Saulx et Loveresse pourraient ne former plus qu'une seule commune. Les citoyens étaient réunis hier soir en assemblée extraordinaire. Ils ont accepté de poursuivre les discussions en vue d'une fusion. À Reconvier comme à Saulx, le oui a été presque unanime. À Loveresse, par contre, ça s'est joué à 2 voix près, 24 contre 22 en faveur d'un éventuel rapprochement. Le vote formel pour la fusion se tiendra au printemps prochain. Pour évoquer les prochaines étapes, nous recevons en direct dans ce journal le président du groupe de travail intercommunal et conseiller municipal à Reconvier, Jean-Michel Hirschi. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel Hirschi, déjà sur la soirée d'hier, hein, score presque soviétique dans votre commune ainsi qu'à Saulx. À Loveresse, par contre, un petit oui. Comment on explique ce décalage ?
On le savait déjà un peu, hein, qu'à Loveresse, c'était beaucoup plus partagé que dans les deux autres communes. On l'avait vu au niveau du sondage citoyen qu'on a effectué dans le cadre du groupe de travail intercommunal. Donc on n'est pas étonné de la discussion, et l'âpre discussion même qui a eu lieu hier soir à Loveresse. Pas étonné, mais heureux du résultat.
Alors comment vous allez pouvoir rassurer justement les citoyens de Loveresse encore hésitants en vue du vote le printemps prochain ?
J'aimerais les rassurer de deux manières. D'une part, de leur dire que le résultat des deux autres communes, ce n'est pas uniquement une décision communale, mais c'est une ouverture vis-à-vis de Loveresse. Je pense, en tout cas, je l'ai vu à Reconvier, les citoyens sont vraiment favorables à cette fusion et ils le sont dans le sens où on voudrait bien accueillir les gens de Loveresse avec nous. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le rapport de base qui a été établi et qui décrit clairement des éléments importants pour la commune de Loveresse. C'est le maintien de l'école, c'est la garantie d'avoir un représentant, en tout cas dans la première législature. Et puis, je crois qu'on a toujours été, on l'a fait aussi par le passage dans les différentes communes, on ne veut pas être la grande commune qui intègre les deux autres. On aimerait leur donner la possibilité de donner leur mot aussi dans cette fusion. Et je crois que c'est une grande chance pour eux actuellement.
Donc il ne faut pas voir Reconvier qui va phagocyter ces deux petites voisines finalement.
Et je l'ai dit dès le départ, c'est pas le but de cette fusion. Hein. C'est vraiment de pouvoir travailler ensemble et on le fait déjà sur de nombreux domaines depuis de nombreuses années. Je crois qu'on on travaille ensemble dans beaucoup de choses.
Alors, place maintenant à la préparation formelle hein, des documents. Qu'est-ce qui doit encore être fait en vue de ce printemps ?
Alors, sur la base des décisions qui ont été prises, on devra établir maintenant un contrat de fusion, hein, ce qui devrait être présenté au niveau cantonal, et puis un règlement d'organisation aussi, nouveau et global, en intégrant les spécificités des trois communes. Donc, c'est sur ces deux éléments-là qu'on va se concentrer maintenant dans les mois qui viennent.
Et puis, justement, par rapport au vote au printemps prochain, est-ce que le refus d'une des communes peut faire capoter tout le projet ?
Non, ça a été décrit clairement dans le règlement d'organisation du groupe de travail intercommunal. On a bien spécifié que, indépendamment de la disparition d'une des trois communes, si deux communes restent, la fusion se fera.
Alors maintenant, Jean-Michel Hirschi, avant de se quitter, est-ce qu'on a déjà une idée du nom que portera cette éventuelle future commune ?
Non, alors il y a eu des prémices hier soir de décision par rapport au nom, mais ce n'est pas une décision puisqu'on va lancer maintenant un concours. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se faire, mais je ne peux pas vous donner aujourd'hui le nom de cette nouvelle commune. Désolé.
Jean-Michel Hirschi, je rappelle que vous êtes le président du groupe de travail intercommunal qui planche donc sur une éventuelle fusion entre Reconvier, Saulx et Loveresse. Merci d'être venu en direct dans ce journal pour parler des prochaines étapes dans ce dossier. On vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous et bonne journée à vous et à vos auditeurs.
L'électricité coûtera moins cher l'an prochain à Moutiers. La ville annonce aujourd'hui que le prix va baisser d'en moyenne 2% pour toutes les catégories de ménages, les PME ainsi que les gros clients. On parle de 1 à 2 francs par mois selon le profil de consommation. Moutiers toujours, la ville se prépare à festoyer. La fête de la vendange des Deux Saints a annoncé son programme ce matin. Les Prévotois pourront participer à la récolte des raisins de Moutiers, mais aussi de la nouvelle vigne de Grandval le 28 septembre, puis ramener les fruits à pied en ville. Aurel Morf, vigneron en caveur à Moutiers, explique comment ils envisagent la fête cette année.
On a dans l'historique aussi de l'association le terme retour aux sources. Continuellement, en fait, on recherche cette notion de retour à quelque chose de simple et convivial. Et chaque fois, alors, il y a toujours un petit peu l'enthousiasme et l'énergie du moment qui nous amène toujours à grandir, à faire des événements très redondants. Et puis après, on se dit, ouh, attention, on n'a plus l'énergie de maîtriser toute l'infrastructure qu'on a en place. Donc à ce moment-là, hop, on redéconstruit tout en gardant la base même de l'énergie, donc le noyau. Avoir envie de partage, de partager ces moments-là qui sont fort plaisants et en lien avec la nature. Donc là, on va matérialiser ça par une fête beaucoup plus petite, pas de tente, à part une petite pour protéger le bar. Et on va se contenter de l'esplanade et de la nature telle qu'elle est pour s'y intégrer de la manière la plus légère possible, si on veut. Donc on aura une fête ouverte avec les essentiels, donc à manger, à boire, de la musique, un feu et les gens. Pour partager tout ça.
À noter que la manifestation sera annulée en cas de forte pluie. L'industrie horlogère suisse lance un appel aux autorités. Face à un ralentissement de la demande, la FH et la convention patronale de l'industrie horlogère suisse demandent d'agir sur les exportations et sur le franc. Les sous-traitants et les entreprises actives sur l'entrée et le milieu de gamme sont celles qui souffrent le plus de la situation actuelle. Entre janvier et juillet, les exportations ont reculé de 2,4% par rapport à la même période l'an passé. Plusieurs sociétés ont déjà dû recourir au chômage partiel. L'imposition individuelle indépendante de l'état civil pourrait devenir la règle en Suisse. Le conditionnel reste toutefois de mise, car malgré près de 6 heures de débat, le Conseil national n'a pas encore pris position sur l'initiative des femmes PLR. Les décisions sont attendues mercredi prochain, mais les fronts se sont dessinés au cours du débat. PLR, PS, Verts et Verts libéraux soutiennent l'idée. Le centre et l'UDC souhaitent aussi la dépénalisation fiscale des couples mariés, mais selon d'autres modèles. L'imposition individuelle est un serpent de mer de la politique suisse. Alors pourquoi le projet du PLR serait-il le bon ? La conseillère nationale libérale radicale genevoise Simone de Montmelin.
On souhaite enfin avoir une égalité de traitement entre l'homme et la femme en matière fiscale. On ne veut pas que le régime matrimonial ait une incidence quelconque sur le traitement fiscal imposé. Et donc ni l'initiative du centre, ni l'autre qui semble venir en perspective par l'UDC ne va dans cette direction. Nous souhaitons que le mariage reste une volonté fondée sur le souhait de deux personnes de constituer une famille et de passer sa vie ensemble. Mais ça ne doit pas être pour des considérations matérielles et en tout cas pas fiscales. Aujourd'hui, on sait que les couples mariés payent des milliards en trop. Il est temps de corriger cette injustice.
Et le tribunal fédéral l'avait déjà constaté en 1984. Les adversaires de l'initiative libérale radicale, UDC et Centre, sont notamment effrayés par le fait qu'il faudra remplir 1,7 million de déclarations fiscales supplémentaires. Un monstre bureaucratique pour le centriste valaisan Sidney Camerzin.
Cette proposition qui est une révolution fiscale, elle a deux gros inconvénients. Le premier, on va créer un monstre bureaucratique parce qu'on va doubler les déclarations fiscales. On aura 1,7 million de déclarations fiscales supplémentaires en Suisse. Donc il faudra engager des taxateurs et des fonctionnaires à tour de bras. Et en plus, ça va engendrer des pertes fiscales à hauteur de 1 milliard pour la Confédération, sans compter les pertes pour les cantons et les communes. Donc ajouter l'engagement de taxateurs aux pertes fiscales, pour nous, c'est un projet qui ne tient pas la route.
Un dossier de Serge Jubin. Poursuite des débats sur l'imposition individuelle et vote au Conseil national en principe mercredi 25 septembre.
RGB 12h24, Anthony Montandon, ici Sabine.
Sport.
Exactement, puisqu'une nouvelle ère qui s'ouvre pour le HC Bienne. L'équipe zélandaise de hockey sur glace entame sa saison de National League ce soir avec la réception du champion titre Zurich à 19h45. Une saison censée lancer un nouveau cycle au sein du club. Un nouvel entraîneur est arrivé, le Suédois Martin Filander. L'équipe a passablement bougé et a été rajeunie. Politique assumée par la coprésidente du club Stéphanie Meria qui se montre très lucide sur les objectifs du HC Bienne cette saison.
On savait qu'on arrivait à la fin d'un cycle avec ce groupe qui avait frisé la perfection il y a deux saisons et qui avait donc fini vice-champion et qu'il fallait à un moment donné renouveler cette équipe et repartir. Donc les objectifs, c'est très difficile d'en fixer cette saison. On sait que beaucoup d'équipes se sont renforcées. Vouloir accrocher le top 6, c'est absolument pas une ambition réaliste pour le moment. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut faire. Évidemment, on commence pas une saison pour ne pas faire les playoffs, ça c'est une évidence. Mais on se rend bien compte que ça va être compliqué. Clairement, c'est une saison de transition, on le sait très bien, les meilleures années qu'on a vécues au HC Bienne, c'est quand on avait un entraîneur qui restait sur plusieurs saisons d'affilée, qui prenait un groupe en main et qui arrivait à le développer. Et c'est exactement ce qu'on aimerait faire avec le nouveau duo de coach, même trio, puisque Beat Forster a aussi rejoint les deux entraîneurs suédois. C'est vraiment ça l'idée, qu'ils puissent prendre en main ce groupe qui a été rajeuni, qui est changé, qui peut quand même se baser sur l'expérience de quelques piliers et qui, tout au long de la saison, vont pouvoir évoluer et, si possible, se développer au mieux.
Le HC Bienne a perdu plusieurs cadres, notamment en défense, avec les départs de Yannick Radgeb à Fribourg et la fin de carrière de Beat Forster. Noah Delémont n'est pas encore de retour de blessure, tandis que le jeune Gaël Christ intègre durablement l'effectif. Le défenseur Robin Grossman a bon espoir que cette équipe grandisse ensemble, malgré certaines pertes.
Oui, c'est clair. Yannick, il a joué beaucoup de powerplay. Beat, gros nom qu'il est, c'est clair. Ça manque un peu, mais on a des jeunes avec Kyle Christ, Noah qui est presque en forme avec le genou qui était blessé. On a, c'est clair, plus jeune que l'année passée, mais on a des bons joueurs. On a un nouveau système, un nouveau coach qui est très, très strict avec les systèmes. Je pense que ça aide une équipe jeune comme nous en. Je pense que ça, c'est très, très important et aussi la chemistry dans l'équipe, c'est mieux que l'année passée.
Et malgré ces chamboulements, le nouvel entraîneur Martin Filander dit son équipe prête à démarrer la saison après une préparation riche d'enseignements.
There are a lot of lessons we've learned so far, but of course
on a beaucoup de leçons à en tirer, mais tout est nouveau pour l'équipe et moi. On doit se mettre au diapason, faire progresser notre nouvelle façon de fonctionner. C'est un processus, même si le championnat commence ce soir. Mais je crois que nous sommes prêts à démarrer à un niveau compétitif qui nous permette de gagner des matchs. L'équipe est bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde dans le vestiaire et je crois que c'est ça le plus important. Que nous tirions tous à la même corde. Je crois que cette ambiance nous aidera cette saison.
Propos recueillis et traduits par Jérémy Pignard. HC Bienne Zurich, c'est le coup d'envoi de la National League ce soir à 19h45. Match à suivre en direct dès 19h30 sur RJB avec notre consultant Christophe Val. Le Vangdorf, lui, se prépare aussi à vibrer, mais au rythme de la Ligue des Champions. Young Boys entame la plus prestigieuse des compétitions européennes de football avec la venue des Anglais d'Aston Villa ce soir. Coup d'envoi de ce premier match à 18h45 à Berne. Cette Ligue des Champions présente une nouvelle formule dès cette saison avec 36 équipes au total et un seul classement. Est-ce que ça pourrait avantager un club comme IB qui fait partie des petits poussés de la compétition? La réponse du directeur sportif du club, Steve Von Bergen.
Oui, alors on est clairement dans les petits poussés. Je crois qu'on a l'avant-dernière équipe au niveau de tout ce qui est budgétaire ou valeur des joueurs. Est-ce qu'elle va l'avantager? Je dirais qu'il y a... J'ai vu une statistique avec un algorithme qui a été fait de la part de l'UEFA qui dit qu'il faut 8 points pour pouvoir se qualifier, pour ne pas être dans les 9 derniers. Ce sera notre objectif sur 8 matchs, essayer d'aller gratter 8 points. Ça ne va pas être chose facile. On a quand même des matchs aussi à l'extérieur qui sont compliqués avec le Celtic, mais des expériences fantastiques aussi pour nos joueurs de se frotter à différents footballs, à différentes cultures du football. Et c'est pour ça qu'on se réjouit de jouer cette Champions League parce que ça donne une expérience à nos joueurs qui est fantastique. On va essayer d'aller dans cette Ligue des Champions avec beaucoup d'humilité. Sur les dernières années, on a fait que 3-4 points, ce qui était déjà pour nous plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est clair que si on va atteindre les 8, on sait qu'il va falloir battre l'étoile rouge de Belgrade à la maison. Il va falloir aller faire un bon résultat à l'extérieur, que ce soit à Celtic ou à Stuttgart. Et bien commencer la campagne aujourd'hui contre Aston Villa, qui pour la première fois de leur histoire joue la Champions League. Donc une équipe ultra motivée avec un entraîneur techniquement très très fort. Donc à nous de prendre la compétition par le bon bout et essayer d'avoir déjà un résultat positif aujourd'hui.
Stephen Bergen répondait à Jean-Paul Pitchy. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'actualité. C'est dans le flash de 13h. Très bel après-midi.